Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi 13h sur RCN 90.7 dans l'émission Dialectique. Et aujourd'hui, dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un ami, un collègue même, on peut dire, un collègue d'études, un docteur talentueux, unique en son genre et un homme formidable. Je présente donc docteur Hervé Chenal. On va se tutoyer, hein, doc, on se connaît.
Avec grand plaisir. Oui.
On va parler aujourd'hui de ton parcours, de ta passion et de tes passions même de façon générale. On va parler de ce que tu fais et développes à travers l'Institut européen de la vision et du regard. Tout d'abord, j'ai envie de dire, ce parcours, il a commencé un 4 juin à Épinal, si je ne m'abuse.
Il a commencé à 4 juin à Épinal, effectivement, ouais. Date de ma naissance, il y a un peu plus de 51 ans maintenant. Et ça, c'est le début de la grande histoire ou de ma petite histoire. Après, sur le projet, sur l'évolution plutôt, on va dire, professionnelle, ça a commencé un peu plus tard quand même, mais...
Oui, t'as presque... pas commencé dès la naissance, mais
non,
presque.
Non, hein. Mais presque. presque comme un petit conte de fées, Once Upon a Time.
Yes.
C'était très très tôt aussi, ouais, effectivement, parce que c'était... Et à Épinal aussi.
T'as grandi à Épinal ?
Non, j'ai grandi à Mirecourt, la capitale des violons et de la lutherie.
Très beau luthier.
Ouais, avec une fabuleuse école de lutherie, la seule en France et de renommée mondiale, et la capitale de la dentelle aussi.
Mais tu t'es pas mis au violon ?
Je me suis pas mis au violon, non, mais c'est la découverte à Épinal d'un cabinet d'ophtalmo, j'avais 7 ans, parce que c'est l'époque où on faisait encore des visites médicales scolaires de façon régulière et dépistage, et peut-être tu vois pas très bien, donc voilà, on est allé avec maman... À Épinal, chez l'ophtalmo, là c'était la découverte. Ouais.
Moi il y a quelque chose qui me frappe quand tu parles de cette découverte, tu utilises le mot rêve, et systématiquement.
Ouais, parce que c'était un rêve, parce que c'était très tôt dans la vie, qu'au départ, voilà, c'est quelque chose qui m'a ébloui quand je suis rentré dans le cabinet, parce que c'était un cabinet d'un jeune ophtalmo de l'époque, que j'ai remplacé même par la suite, une fois que j'ai réussi à avoir tout ce qu'il fallait en termes de diplôme. Mais c'était une vraie révélation. C'était un cabinet tout moderne, pas comme ceux qui existaient encore à l'époque, hein, parce que la plupart étaient encore comme des chambres noires.
Là. Ça ressemblait là, à quoi
Là, c'était vraiment tout moderne, une toute belle pièce blanche, mais avec des appareils électroniques, des boutons partout, de l'automatisme. Voilà, c'est presque un cabinet comme tout le monde le connaît maintenant.
Attends, mais une fois que tu rentres...
il y a 40 ans.
C'est ça, tu rentres dans cet endroit. Qu'est-ce que
ébahi,
tu te dis?
J'ai été ébahi par ça, et donc je me souviens très bien avoir dit à maman à la sortie, c'est ça que je veux faire quand je serai grand, quoi. C'est vraiment été époustouflé par ce truc-là.
Et qu'est-ce que tu gardes de cette enfance à Mirecourt? Quels souvenirs tu as?
Ah bah c'est une enfance très très heureuse, hein. Très heureuse. Petite ville, c'était sympa. Il y avait les copains, la famille. On a une belle enfance, ouais.
Ouais. Et donc pour définir un peu ce parcours après ce premier contact avec la profession à l'âge de 7 ans, tu utilises les mots rêve, humilité, engagement, ténacité. Ce sont les mots qui ont un peu guidé ton parcours scolaire.
Oui, justement, parce qu'effectivement, on rêve, parce que c'est un processus hyper long, et il faut avoir l'honnêteté de pouvoir dire, je suis pas sûr de pouvoir arriver à ça, parce que c'est quand même jalonné de difficultés, et le parcours tel que je l'ai fait, on a été vraiment très présent, ça n'a pas été simple, quoi, hein, ça n'a pas été simple, ça a été long, et voilà, la révélation, quand tu l'as, tu t'imagines pas la difficulté, la longueur du parcours, toutes les étapes qui doivent être franchies, et voilà, donc il faut de la ténacité obligatoirement, beaucoup, et puis il faut pouvoir se donner toutes les cartes en main et avoir tous les atouts pour aller jusqu'au bout. Et ça, bah, il faut le soutien aussi, hein, le soutien de la famille, et ainsi de suite. Donc ça, c'est indispensable, ouais, ça, c'est sûr.
Et tu utilises le terme difficulté. Quel type de difficulté on rencontre quand on s'engage dans un parcours scolaire pour devenir chirurgien?
La difficulté, c'est qu'il faut déjà pouvoir le déterminer à l'avance. Et c'est pas évident d'avoir toutes ces capacités pour aller au bout, hein, en termes d'études. Il y a quand même beaucoup d'examens qui sont pas tous très simples à avoir. Donc non, c'est un réel challenge. Ça, c'est sûr.
Personne dans ta famille n'exerçait dans la profession?
Si, non, pas chirurgien. J'avais mon oncle qui était homéopathe, qui était le président des homéopathes de France, qui avait un beau cabinet à Paris, mais qui a malheureusement pas eu la chance de me connaître en tant que médecin, parce que malheureusement il est décédé au début de mon cursus universitaire, mais qui m'avait beaucoup soutenu aussi dès le départ. Ouais, je me souviens, il m'avait acheté des livres et c'est voilà.
Ouais. Et alors, à cette époque-là, t'as d'autres passions, hein, en replongeant dans ton enfance, dans ton adolescence, les arts martiaux, le jiu-jitsu, le judo.
Ouais. Dès très tôt, j'ai fait du judo. Au départ, parce que j'avais envie de faire du sport, j'avais pas de vrai, appétence particulière, et puis en suivant les copains qui faisaient ça. Je dois dire que le foot, ça m'intéressait pas vraiment. Et voilà, donc c'est vraiment un sport que j'ai bien aimé. Je suis allé jusqu'à ma ceinture noire. J'ai fait aussi un peu de jiu-jitsu à la fin. C'est une très belle école aussi de vie, d'humilité. Hein, on revient à ça, hein, d'humilité, de raison et de comportement, parce que ça c'est important aussi de pouvoir canaliser ses forces et pouvoir les positionner quand c'est nécessaire.
Et avec quelques trophées glanés.
Oui, quelques trophées glanés, évidemment, un tout petit peu, dans les championnats régionaux. Là aussi, c'était un niveau, en toute humilité, de base.
Ah ben, en tout cas, des victoires qui s'enchaînent un peu comme pour accompagner tes études, donc dans cette formation en médecine générale, et ensuite un cursus spécialité chirurgicale.
Alors c'est vrai que ça a fait partie des difficultés un peu de la formation, c'est que la première fois où j'ai passé l'internat, j'ai pas été suffisamment bien classé, toujours dans l'objectif d'avoir un poste de chirurgie et d'ophtalmo. Donc je me souviens très bien avoir rempli, il y avait toute une énorme grille de choix multiples qui était, une fois que tu avais passé l'examen, qu'il y avait le classement pour que les gens choisissent. Et moi j'avais rempli une seule case, c'était de la chirurgie à Nancy, parce que dans l'objectif que j'avais, c'était de faire déjà ma surspécialité en ophtalmologie, mais on en parlera un petit peu bien après, sûr. Et que l'école de Nancy était une école extraordinaire pour faire ça. Donc voilà. Mais je m'étais dit, si j'ai pas ça, de toute façon, j'ai pas envie de faire autre chose. Donc je vais continuer le cursus, le troisième cycle de médecine générale, pour repasser l'internat, pour me redonner toutes les chances de refaire ça. Donc voilà, ça fait partie, effectivement, toi, des challenges, des difficultés qui étaient rencontrées. Mais celle-là, elle n'était pas prévue. Hein. C'est pas un échec, c'était une difficulté qu'il a fallu surmonter. D'autant plus que, au départ, je m'étais dit, je vais faire une seule année de ce cursus de médecine générale. Et puis finalement, le travail à fournir pendant la première année où j'étais interne à Nancy, en neurologie, à l'hôpital Saint-Julien à l'époque, a été tellement prenant que je me suis dit, t'as pas retravaillé suffisamment pour te donner suffisamment de chances supplémentaires de mieux réussir cette fois. Donc repars pour une année de boulot en plus pour pouvoir repasser cette fois-là, et parce qu'il y a que deux chances, hein, donc la deuxième chance, il fallait pas la louper, il fallait mettre tous les atouts de ce côté-là pour pouvoir absolument réussir.
Ah, donc il y a que deux chances, après on ne peut plus.
Il y a que deux chances. À l'époque, il y avait que deux chances.
Ah oui. Ça fout une certaine pression.
Ah, c'était une certaine pression. Alors le cursus s'était très bien passé dès le début, parce que j'avais réussi à passer la première année du bisu, du premier coup. Mais là, c'était presque le premier vrai échec ou demi-échec dans tout le cursus scolaire et universitaire, au moment-là, donc à la fin de la sixième année. Quoi.
Comment on le vit?
J'ai pas le souvenir de l'avoir mal vécu. Évidemment, ça te fait une grosse remise en question, parce que tu te dis, la façon que j'avais à travailler, que j'avais prise de travail et tout ça, finalement, elle était peut-être pas la bonne. Même si j'étais dans un groupe de travail d'internat où mes camarades ont super bien performé, en étant dans les le meilleur, il avait fini cinquième, quoi.
Ah oui.
Sur leur en français. Il est d'ailleurs maintenant professeur d'ophtalmologie à Paris, un des plus beaux postes prestigieux de ça. Mais Donc voilà, tu te remets un peu en question, puis tu réfléchis, et j'ai réfléchi un peu, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui te ferait vraiment envie? Et ça, très rapidement, la réponse a été non, c'est vraiment
donc ça. Donc il y a eu le doute, mais qui n'a pas duré.
Ouais, non, ça n'a pas duré, ça n'a pas duré, parce que c'était vraiment l'objectif qui datait, l'objectif qui datait avait vraiment, il restait, quoi. Restait. Alors j'avais aussi, pendant le cursus, passé du temps dans les services d'ophtalmo de Nancy. J'avais été quand même voir un peu ailleurs s'il pouvait y avoir d'autres choses qui me plaisaient ou pas, mais j'avais pas trouvé d'autres spécialités qui m'auraient vraiment plu. Et puis, à côté de ça, je m'étais dit, voilà, si vraiment c'est l'étape et la marche est un peu trop grande, la médecine générale, c'est une très très belle vocation aussi, donc... Je ne perds pas de temps à faire au moins une année de médecine générale. L'histoire a fait que j'en ai fait une deuxième. J'ai fait des remplacements en médecine générale avant de repasser l'internat. Et pour en revenir à la question, tu me disais, c'est pas ce moment-là où j'ai le plus de difficultés à vivre. C'est surtout là, au moment où j'ai repassé la deuxième fois l'internat, où là, les conditions étaient très, très, très compliquées parce que c'était une année de transition. Où les cursus en termes de avaient été rallongés d'un semestre et donc on savait même pas le jour où on a commencé à l'examen sur deux jours d'internat à Paris, on savait même pas si on avait le droit de concourir. On nous a dit on n'a pas reçu d'informations supplémentaires, donc on vous laisse le droit de concourir. On ne sait pas si vous serez corrigé, on ne sait pas si vous serez classé. Parce que les conditions d'examen avaient changé sur la maquette de troisième cycle de médecine générale et donc ça ne pouvait pas obligatoirement s'articuler selon la législation de l'époque. Ça, c'était un peu compliqué. Et donc, l'attente jusqu'au résultat, là, c'était une période un peu difficile. Ouais.
En tout cas, tu as pu braver tout ça, parce qu'est venu le doctorat en ophtalmologie.
Oui.
Et la soutenance, une thèse ayant pour titre « Études anatomiques des orifices excréteurs de la glande lacrymale chez l'homme
». Ouais.
C'est très précis.
C'est extrêmement précis et ça c'est pareil, je suis assez fier et je remercie encore le professeur Jean-Luc Jour de m'avoir donné la chance de pouvoir faire une thèse d'anatomie, parce que je pense pour quelqu'un qui veut et qui est chirurgien, c'est quand même un vrai honneur d'avoir une thèse d'anatomie. Et en plus, voilà, c'était un beau travail, un beau challenge aussi à faire, parce qu'il y avait de l'étude anatomique sur cadavres, donc il a fallu travailler avec le laboratoire d'anatomie de la faculté. Ils m'ont ouvert aussi toute leur bibliothèque où il y a vraiment des manuels exceptionnels, des vieux précis d'anatomie de plusieurs siècles qui conservent. Donc ça a été vraiment une recherche bibliographique intéressante. Ça a été aussi des travaux de dissection pas toujours simples. Et puis aussi de pouvoir réintégrer tout ça dans une approche plus clinique et moderne.
C'est vrai que toi, t'en parles avec en toute décontraction, mais travailler sur un cadavre la première fois, qu'est-ce que ça fait?
On fait souvent abstraction de l'état de cadavre. En plus, honnêtement, c'était une tête ou une demi-tête. C'était c'était pas le cadavre entier parce qu'il vraiment tout serre. Donc
on sectionne, c'est ça?
Ouais.
Parce que je pense que nous, le grand public, on ne sait pas comment ça se passe.
Chaque membre peut servir à plusieurs usages, à plusieurs travaux. Donc ouais.
Et donc oui, ça se passe. La première fois, en tout cas, on fait abstraction du contexte et on travaille.
Il faut le faire. Moi, j'avais déjà passé beaucoup de temps justement dans le laboratoire d'anatomie parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, ouais, la première fois où tu rentres dans le laboratoire, on s'habitue à tout et voilà.
Et justement, cette première fois, elle est comment alors?
La première fois, c'est comme toutes les premières fois, c'est extrêmement impressionnant. Mais comme la première fois où tu fais une intervention, la première fois où tu fais ton intervention en solo tout seul, où t'as pas quelqu'un à côté qui peut te secourir ou qui te tient un peu encore les mains. Donc ouais, non, mais ça fait partie des étapes naturelles de l'apprentissage d'un chirurgien.
Alors pour nos auditeurs, je suis sûr qu'ils sont très curieux, comment s'est passée ta première fois? Qu'est-ce que t'as ressenti la première fois en solo?
Alors, en solo, c'est une grosse pression, c'est évident. Au départ, c'est une grosse pression, mais si la formation est bonne et que tu as pu avoir une formation dans les bonnes conditions, ben on te lâche pas comme ça pour que tu puisses faire n'importe quoi. Ouais. Donc non, si les gens te font suffisamment confiance pour dire ouais, on pense qu'il est prêt pour faire ça tout seul, tu dis bon, moi je peux l'assumer, mais ouais. Quand t'as fini et que ça s'est bien passé, t'es soulagé. Hein. C'est quand même ouais, les premières fois, pour chaque première intervention, c'est un vrai stress. Mmh. Évident.
Et ouais. Pourtant, chirurgien, c'est encore l'un des métiers qui fait le plus rêver.
Oui, sûrement, je pense, ouais. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Bah, y a plein d'autres, hein, animateur radio aussi.
je pense que chirurgien
c'est
avant.
C'est beaucoup de stress aussi. Hein.
Et je salue, et aussi aviateur, je salue notre ami Emmanuel Fournier qui doit nous écouter en ce moment.
Je pense que c'est probablement, hein, toute proportion gardée, probablement le même stress et les mêmes responsabilités quand on lui a dit, bah, écoute, tu peux faire ton premier vol solo, et puis voilà. Mais c'est parce que derrière ça, tu as toute la formation, tu as voilà, toutes les étapes que tu as passées, tout ce qu'on a pu te faire apprendre, tout ce qu'on a pu observer de ta façon de travailler, de ta façon d'agir, pour qu'on puisse dire, bon, bah, ok, on prend probablement pas trop de risques à le laisser faire ça tout seul.
Ouais, et puis on se dit, bon, on va le regarder faire, tout comme Jaden Smith dans le morceau qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle « Watch Me ».
Up and away, I give a fuck about your wave. My nigga, I surf every day, drowning my soul in the basement. Look, I ain't got much in the bank, I got a lot I can say. Caught up with goddesses, hey, I hope you forgive my mistakes. Oh, yeah, run around with a renegade. You should take a seat, save your energy. I try to heal the gas with a band-aid. In a time of need, you call your enemies. I landed in a visa and I need a visa. I ain't playing with you, this no mama me. I need a hottie toddy with a body, yeah. I just spit the knowledge, then I'm out of here. That's the day when we come around. This is your time when we want it now. How big is your army? 100,000. If you want the rain, then we coming down. Some of the cool, I'm awesome. Keep flipping the cautions. We should run for the pool. I got the fire flow, the department exhausted. I own nothing in you. I'm in the Tahoe, man, you making me nauseous. Pulling up with the crew. You such a hype beast, man, you making me vomit. Look, watch me, watch me, watch me do this. It's always been more than the music. You riding weights on the back of my cruise ship. Look, watch me, watch me, watch me do this. Since 2012, I've been the coolest. If you do not get it, my nigga, you foolish. That's the day when we come around. This is your time when we want it now. How big is your army? 100,000. If you want the rain, then we coming down. Look, 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 this shit is out of here. You got the heat, I was not aware. Me and BB out in Rotterdam. Got a new man, damn, now I see him. He on the floor on my Coliseum. I hope the guy, he don't sign a prenup. See my ex on the street like I never seen him. Watch me, watch me, watch me do this. You see me dancing like I'm Elvis. Just tell your man that it's all in the pelvis. Watch me, watch me, watch me do this. Since 2012 I've been the coolest. If you do not get it, my nigga, you foolish. That's the day when we come around. This is your time when we want it now. How big is your army? 100,000. If you want the rain, then we coming down.
13h-14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on a fait le plein d'énergie avec Jaden Smith, un morceau multivitaminé, hein, Watch Me sur RCN 90.7. On est dans dialectique. Oui, Watch Me, bien sûr, Hervé qui me fait le signe du regard. Le morceau n'est pas choisi au hasard, bien sûr, parce qu'on parle du docteur Chenal. On parle aussi de l'Institut européen de la vision et du regard. On parle de l'importance du regard. On va développer d'ailleurs. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec le docteur Étienne Haché, pour la création de cet institut?
Ouais, alors ça c'est aussi une belle rencontre, en sachant qu'on a, allez, on peut le dire, une génération de différence entre Étienne et moi, et que il avait déjà une énorme activité et une énorme renommée. Et moi j'étais le petit chirurgien qui commençait, avec une activité quand même un peu spécifique, mais Mais on a tout de suite compris tous les deux qu'il y avait une réelle synergie dans les activités. Lui, sur la partie de chirurgie réfractive, les lasers, les compensations de défauts de correction, les chirurgies de cataractes, des greffes de cornée, tout ce qui peut être plus ou moins compliqué. Et moi, toute la partie d'oculoplastie. Donc, on a vite compris qu'il y avait une réelle synergie là-dedans. Et donc, naturellement, les choses se sont faites. En disant, il faut monter une structure qui permette de traiter, lui, la vision, et puis moi le regard en tant que chirurgien oculoplasticien.
Alors, là, il y a une première en France, très vite, c'était la mise en place d'une consultation spécialisée pour les sécheresses oculaires.
Oui, parce que justement, le constat qu'on a vite fait, c'est que il y avait une sorte de hiatus, il y avait une zone où et des patients qui étaient un peu entre les deux. Et c'est vraiment l'interface entre nos deux activités, c'était cette histoire de surface oculaire et de sécheresse oculaire qui nous posait des problèmes, et à nos patients surtout, mais à nous aussi. Et on s'est vite rendu compte que c'était vraiment l'intersection, c'était vraiment l'interface, si on peut dire, de nos deux disciplines, et que c'était quelque chose qui n'était pas réellement considéré, pas réellement pris en charge. Et la suite nous a prouvé qu'on avait raison là-dessus, parce que c'est probablement une pathologie, c'est sûrement d'ailleurs même un des motifs de consultation les plus fréquents d'inconfort et de problèmes, et qui se développe au fur et à mesure du temps. Et sur une prise en charge qu'on peut maintenant, déclarer comme étant véritablement bien prise en charge, à la fois en termes de diagnostic et de traitement, même si on n'a pas encore de traitements révolutionnaires qui permettent de dire, on vous a guéri de votre sécheresse oculaire. Mais on a une réelle prise en charge, multiple maintenant, mais qui permet de véritablement soulager les patients, et puis les faire progresser, et ça c'est important.
Alors, pas de révolution, mais quand même pionnier de l'IPL, la lumière pulsée, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors la lumière pulsée, c'est probablement le plus grand progrès dans le traitement de la sécheresse oculaire depuis plusieurs années, parce que ça permet justement d'améliorer les capacités de production de larmes, et surtout d'enlever tous ces facteurs inflammatoires, irritatifs, dont on peut maintenant bien faire les diagnostics, qui permettent d'avoir un meilleur état global de fonctionnement, en fait, du système lacrymal, si on peut simplifier. Sous l'effet de forts impacts de lumière, comme le font les dermatologues. D'ailleurs, c'est une technologie qui est dérivée des traitements de dermatologie. Que les dermatos font pour des histoires de rosacées. Rosacées étant par exemple une pathologie vraiment frontière, puisqu'il y a des formes ophtalmologiques, des formes dermatos, des formes qui sont combinées. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon ami le docteur Rolando Toyos, aux États-Unis, c'est lui le pionnier de la lumière pulsée, a justement fait cette découverte de l'intérêt et de l'effet de soulagement et les bienfaits de la lumière pulsée sur des patients qu'il avait en commun avec sa femme, qui était dermatologue. Donc sa femme traitait une partie de sa patientèle pour des histoires de rosacées, dermatos, voilà, et ces patients-là revenaient en lui disant, depuis que j'ai eu ces traitements, je souffre moins de ma sécheresse oculaire. Ça, c'est le début de la réflexion qu'il a eue et du développement de la technologie, avec des appareils maintenant qui sont spécifiquement dédiés à l'usage ophtalmo de sécheresse oculaire, alors qu'ils étaient à la base faits vraiment pour des traitements dermatologiques de la face, essentiellement.
Là, vous êtes inspiré un peu comme... On va y revenir, dans certaines techniques, on s'inspire de ce qui fonctionne pour l'adapter à un autre domaine qui n'est pas si éloigné au final.
Oui, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie de ces belles découvertes qui sont assez fréquentes en médecine, où on se rend compte que un traitement, une formule, une phase de quelque chose fonctionne aussi pour autre chose, même si c'était pas prévu à l'avance. Et là, il faut quand même dire que les ophtalmos sont souvent justement des pionniers dans les phases de mise en place d'innovations qui sont parfois même, comme on le dit, disruptives. Je pense par exemple à la toxine botulique. la toxine botulique dont les premiers usages ont été faits par des ophtalmologistes.
Mmh. Alors, on peut rappeler ce que c'est ?
Dans les années 70, la toxine botulique, c'est le Botox ou apparenté, si on ne veut pas déclarer de marque comme plein d'autres, qui est maintenant très largement popularisé et utilisé à des fins purement esthétiques, mais dont les premiers usages remontant au milieu des années 70... était purement ophtalmologique, parce que la toxine va relâcher l'action musculaire, et les premiers essais de toxine à usage médical ont été faits par un ophtalmo américain pour les strabismes très très forts des tout petits enfants.
Et justement, comment se manifeste une sécheresse oculaire et quels sont les risques encourus si ce n'est pas traité ? Après, on parlera aussi des autres types de soucis et des solutions proposées.
Alors, les symptômes sont assez ubiquitaires et connus quasiment de tous, hein, la sensation d'avoir des picotements, le grain de sable qui augmente au fur et à mesure de la journée, qui augmente quand on a un travail posté, concentré, l'ordinateur, voilà, tout cet inconfort, ces défauts de qualité visuelle qui se poursuit au fur et à mesure de l'évolution, mais ce sont vraiment des symptômes quasiment tout le monde a expérimenté à un moment donné, parce qu'on peut avoir plein de raisons, même pour une histoire, je dirais ponctuelle, de défaut de qualité de lubrification. Le problème, c'est quand cette histoire-là va se chroniciser et qu'on va véritablement rentrer dans un cercle infernal d'aggravation progressive de la pathologie qui va devenir de plus en plus contraignante et invalidante dans certaines formes où ça contraint les gens à baisser leurs activités, à arrêter telle ou telle activité et souvent aussi avec un impact psychologique aussi de se dire c'est compliqué, je suis obligé d'arrêter ça alors que c'est mon métier, je suis obligé de plus faire ça alors que c'est ma passion, donc ça a un réel impact. En sachant en plus que très souvent, les traitements qui peuvent être utilisés pour que les gens aient un peu plus le moral ou soient un peu moins déprimés, sont pourvoyeurs aussi d'effets secondaires de sécheresse oculaire. Donc cette prise en charge-là peut accentuer le problème au moins de la sécheresse oculaire, qui peut s'intégrer d'ailleurs quelquefois, même si ce ne sont pas les formes les plus fréquentes, dans une sécheresse plus globale de toutes les autres muqueuses du corps humain.
Et quels sont les risques encourus si ce n'est pas traité ?
Sur le plan visuel, les risques sont essentiellement de baisser ta qualité visuelle au sens large. Alors, on ne devient pas aveugle, on peut rassurer tout le monde, mais on a une qualité de vie et une qualité de vision qui peut devenir assez compliquée.
Et alors, plus globalement, l'oculoplastie, en quoi ça consiste ?
Alors, l'oculoplastie, c'est presque un gros mot. Hein. C'est une discipline, c'est une surspécialité de l'ophtalmologie qui est effectivement très peu connue parce qu'on est quand même très très peu à la pratiquer dans la noblesse de l'art vraiment de l'oculoplastie. Tout le monde connaît l'activité classique de la chirurgie de cataracte. Voilà. Là, ça n'a absolument rien à voir. L'oculoplastie, c'est tout ce qui concerne les maladies et les chirurgies des paupières, des voies lacrymales, de l'orbite, de la surface de l'œil et tout ce qui concerne aussi l'esthétique du regard, d'où le nom tout à l'heure. On avait expliquer la partie vision et voilà maintenant pourquoi la partie regard de l'Institut, pour moi, l'oculoplasticien.
Aujourd'hui, quelle est selon toi l'importance des interventions chirurgicales dans notre société, autant pour les patients que pour leur vie sociale, quoi.
Alors, l'activité de l'oculoplasticien, en fait, elle se divise en deux branches. Une branche qui est vraiment fonctionnelle sur des malpositions de paupières, des tumeurs plus ou moins méchantes qui poussent, ou aux paupières, aux surfaces, ou dans l'orbite, des problèmes de larmoiement, des choses qui sont vraiment fonctionnelles et dont les gens peuvent être plus ou moins embêtés, avec des conséquences qui peuvent être plus ou moins graves selon la gravité de leur pathologie. Et puis il y a tout un pan qui correspond à une partie plus esthétique de la prise en charge du regard sur des doléances, effectivement, d'amélioration esthétique qui peuvent être soit d'indication chirurgicale, soit d'indication plus médicale avec, on en parlait un tout petit peu à l'instant sur les usages de toxines botuliques ou d'autres produits l'autre grande force de produit étant ce archi connu d'acide hyaluronique, dont d'ailleurs, c'est toujours aussi très intéressant, ce sont les ophtalmos qui ont utilisé en premier aussi les acides hyaluroniques, parce qu'ils servaient, et ils servent toujours d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ils ont été développés, ces acides hyaluroniques, au départ, pour les chirurgies de cataracte. C'est seulement après que l'usage a été, un peu comme la toxine, je dirais, développé pour une activité plus, plus esthétique, faisant la fortune de certains laboratoires d'ailleurs.
J'imagine bien. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait que tu as pu, dans ton parcours, rencontrer pas mal de docteurs à l'étranger, des docteurs américains. Tu fais pas mal de congrès. Quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on y trouve?
Oui, toujours. Alors, ces congrès médicaux, c'est toujours très, très important et intéressant pour la culture, pour les rencontres, pour l'apprentissage. Ça fait partie, de toute façon, ça doit faire partie de la culture même d'un médecin. C'est de la formation permanente. Pourquoi ? Parce que tout évolue tout le temps.
C'est ça.
Donc, il faut être absolument toujours au courant de tout ce qui se passe. Et avoir toujours même un œil sur ce qui se passe à côté de ce qu'on fait, parce qu'on a bien compris que voilà, il y a plein de choses qui se développent partout, et le médical est un monde hyper vaste et hyper en innovation permanente, l'ophtalmologie étant probablement une des disciplines qui a le plus évolué ces 40 dernières années, hein, en termes d'appareillage, de traitement possible, de miniaturisation, et ça va encore le faire avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation, tout ça va continuer évidemment à évoluer, mais c'est important, hein, de se tenir informé, et puis pour toujours avoir un coup d'avance, savoir ce qui se fait à côté, parce que c'est probablement des choses qui peuvent être intégrées, et quelqu'un peut faire des choses intéressantes, et ça permet aussi de voir comment les autres font, et d'intégrer ça aussi dans sa propre pratique, hein, voilà, je dirais, même en termes d'intervention chirurgicale, savoir que, je sais pas, moi, monsieur Goldberg, il fait plutôt ça, quand on le voit, on se dit, tiens, ouais, moi, je fais pas comme ça, mais par rapport à ce que je fais, peut-être je pourrais intégrer une petite variante, une petite modification qui pourrait être intéressante.
C'est une autre approche, en fait, ça
nourrit. C'est toujours une autre approche, ouais. C'est sûr.
Tu parlais du fait aussi d'être, de se tenir toujours informé, d'être à la pointe. Toi, c'est quelque chose à laquelle tu tiens. Quels sont les équipements et les technologies de pointe que par exemple, vous utilisez dans ton institut?
Ça fait partie véritablement de l'esprit et de la vision de l'institut. Hein. C'est d'avoir et de permettre à nos patients de bénéficier de toutes les dernières avancées en termes technologiques, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, pour leur proposer le meilleur soin possible. Et c'est dans cette optique-là aussi que on est, je crois qu'on peut le dire, le seul ou un des très seuls cabinets médicaux en France à avoir une certification ISO, ISO 9001-2015, qui est audité tous les ans, hein. C'est un truc hyper officiel, mais justement le principe c'est d'être toujours au top de ce qui peut se faire, et alors je sais pas, bah voilà, l'IPL on a été probablement un des 3 ou 4 premiers en France à l'avoir,
la lumière pulsée, hein, je précise, nos auditeurs, ouais.
La lumière pulsée, en termes de chirurgie réfractive, il y a les toutes dernières plateformes qui existent avec le laser le plus performant du marché, qui est en action depuis un an et demi maintenant. Et c'est sans arrêt, c'est du renouvellement et la remise à niveau du matériel, même du diagnostic. Ça, c'est permanent. Ça.
Ouais. Tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai dit, hein, nous on se connaît un peu, donc moi j'ai déjà discuté avec toi, mais pour nos auditeurs, tu as utilisé des mots comme la toxine botulique, tout le monde connaît, enfin il me semble, hein, l'acide hyaluronique. Il y a certains soins esthétiques du visage que tu proposes. Est-ce que tu peux décrire en détail ce que c'est et puis expliquer un peu plus en profondeur comment ça agit? Est-ce que c'est ce sont des injections? Est-ce que voilà, je te pose la question naïvement.
Oui, effectivement, on peut faire un peu de vulgarisation et de didactique. La grande différence entre la toxine botulique et l'acide hyaluronique, même si ce sont deux produits qu'on injecte, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Pourquoi ? Parce que l'impact et l'injection de la toxine botulique doit se faire essentiellement sur un muscle. Son activité va faire que le muscle va avoir moins de tonicité, moins de facilité à se contracter, va donc se relâcher un peu plus facilement, d'où les effets qui sont recherchés sur la relaxation musculaire, en particulier sur le traitement des rides de la face. Moins le muscle va se contracter, moins la peau qui est dessus va avoir tendance à bouger et à se flétrir. D'accord ? Sur la toxine, il y a deux, trois autres effets qui sont plus, on va dire, de systèmes neuro-végétatifs plus particuliers, qui servent aussi, par exemple, sur les hypersudations. Il n'y a pas de muscle, mais ça fonctionne aussi parce que ça a comme même cible la jonction, une des jonctions entre différents neurones. Ça, c'est très, très technique, ça. Et donc, l'action cible de la toxine botulique, c'est le muscle. Et l'action cible au niveau de l'acide hyaluronique, c'est plutôt la peau, la qualité de peau et redonner du volume. Donc, ça a une action, on va dire, plus mécanique, redonner du volume sur des zones où il y a du volume qui a été perdu et redonner ainsi un peu de tonicité à la peau. Mais donc c'est pour ça qu'on les utilise de façon complémentaire sur certaines zones, mais qu'on les utilise pas, on peut pas remplacer l'un par l'autre.
Dernier terme barbare pour nos auditeurs, hein, je profite de ta présence pour qu'on puisse vulgariser la radiofréquence fractionnée micro-ablative.
Oui, alors ça c'est un gros mot, hein. C'est une technique qui permet justement d'avoir un peu de relaxation des muscles et d'effet de contraction des tissus sous-cutanés. Et ça se fait quand même essentiellement au cabinet, avec une petite anesthésie de surface où on va faire apparaître des petits micro-courants électriques avec des micro-électrodes pour pouvoir avoir un effet très ciblé sur des zones qui se retrouvent, je dirais... très en surface, mais quand même un tout petit peu en profondeur au niveau de la peau. Comme peuvent le faire certains lasers aussi.
Très bien. Bah, écoute, je pense que c'est parfait.
Je suis pas sûr que ce soit hyper clair.
C'est très, très clair, c'est clair. Et puis, on va s'octroyer une petite pause musicale. Alors, je t'ai demandé de choisir un morceau. Tu vas nous expliquer ce choix après. Alors, le nom du groupe, hein, on va dire que c'est le champ lexical de ce que tu fais. Ouais. The Cure avec A Forest.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est en direct sur RCN 90.7 avec le docteur Hervé Chenal de l'Institut Européen de la Vision et du Regard. On parle ensemble de l'importance de la vision et du regard. On parle aussi de ton parcours, docteur. Et j'en profite pour saluer nos amis Dominique, Stéphanie et Emmanuel qui nous écoutent en ce moment même. On les embrasse. Alors donc, tu avais choisi ce morceau de The Cure. Pourquoi ce choix ?
Alors, pourquoi ce choix ? D'abord parce que The Cure, c'est mon groupe favori depuis l'adolescence et que ça me rappelle des longues soirées de travail dans les premières années où j'étais tout seul dans ma pauvre chambre universitaire, je sais pas, ça faisait 8-9 mètres carrés grand maximum, et je passais en boucle ces chansons-là, d'autres, hein, on avait même trouvé d'autres.
Bien sûr.
Et c'est pas des mauvais souvenirs, hein, mais ça m'a aidé aussi à tenir dans ces moments qui n'étaient pas toujours très simples, quoi.
Et quand on parle de souvenirs, le moment le plus marquant dans cette période-là, ça a été lequel, ou même à l'issue de cette période-là ?
Ah, je pense que là où il y a eu beaucoup d'émotions, c'est à la soutenance de la thèse. Mmh. Ouais. Parce que c'est, voilà, tu prêtes serment, c'est solennel. Il y a la famille, il y avait ma femme, il y avait mes parents, il y avait mon frère, il y avait mes grands-parents qui étaient encore vivants à l'époque. Donc c'est un énorme moment d'émotion.
Quelle image te reste de ce moment-là ? Si c'était une photo, qu'est-ce qu'on y verrait ?
La photo, c'est moi avec maman. Mmh. Et puis après on a fait des photos avec tout le monde. Donc j'ai le souvenir en fait de tout le monde, de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai le souvenir aussi qu'il y avait un des juges qui était largement à la bourre et qu'on l'a attendu. Okay. Et que, comme je me connais, hein, moi, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais. Ouais. Donc, dès qu'il est arrivé, j'ai dit maintenant on y va parce qu'on a perdu assez de temps. Voilà, il faut qu'on fasse ce qu'on avait prévu de faire, quoi.
Et comment ça s'est passé alors ?
Ah, bah, ça s'est très très bien passé, mais j'ai le souvenir aussi que c'était une dame de la faculté qui s'occupe, voilà, parce qu'il faut que tu t'habilles, tu t'endimanches, tu prépares, il y a tout un protocole, donc elle nous avait répété tout ça, elle nous accompagne jusqu'à la salle et tout ça, et je me souviens très bien qu'elle m'a dit, mais vous êtes le seul qui était aussi déterminé à aller à la soutenance. Ben, j'ai dit, voilà, quand c'est le moment, faut y aller, quoi.
Allez, donc ça, c'est un état d'esprit qui ne te lâche pas, hein. T'es un fonceur, t'es plutôt quelqu'un d'introverti, on dirait pas, hein, mais t'es
un fonceur. Mais je me soigne.
Ouais. On en est où dans la cure, là, dans The Cure,
ça fait partie du treatment.
et donc je disais que t'es un fonceur parce que t'es aussi business angel.
Oui.
Et tu crois fortement au développement de l'économie locale, ça c'est quelque chose
c'est évident, je suis pas le seul, hein. je suis avec quelques autres qui avaient commencé cette réflexion-là avant moi, mais à croire effectivement que c'est extrêmement important de dynamiser le réseau économique et industriel local. On est quand même dans une région qui a été largement sinistrée, je parle au niveau régional, hein, donc effectivement mon activité de business angels à titre individuel, mais m'a permis aussi de rencontrer des gens qui partageaient cet état d'esprit, et en particulier le fonds ADER Investissement dans lequel je suis actionnaire, parce que c'est vraiment la vision de un développement économique et industriel fort sur la région ne peut que dynamiser l'intégralité de toute la vie locale. Et inévitablement, derrière, développer aussi nos activités.
Bien sûr, et en parlant d'activités, la création d'un Dry Eye Center et même son expansion qui est déjà...
Oui, c'est-à-dire que tout le monde l'avait bien compris, l'activité de sécheresse oculaire, et en bon français, un Dry Eye Center, existe depuis presque une quinzaine d'années maintenant dans le cabinet, mais je vais faire une structure spécifique pour cette activité-là, mais qui sera adossée à l'institut, et on peut le dire, il y aura un institut européen de l'œil sec.
Ah, okay, bon,
mais adossé à l'Institut européen de la vision et du regard.
Voilà, ouais. En exclusivité sur RCN, comme d'habitude. Alors, on parle toujours de cette appétence pour les défis. Tu t'es inscrit
il y a maintenant un peu plus d'un an et demi dans un exécutif MBA à ICN. On se dit, mais il a jamais fini. Il n'a jamais fini avec les études.
Oui, non, ça c'est sûr que j'ai une réelle soif d'apprendre et de continuer. On en parlait un tout petit peu avant sur cette nécessité de rencontrer les autres, de voir ce qu'ils font et d'apprendre tout le temps. Je suis pas le seul à avoir osé ce pari. Hein. On en a salué quelques-uns. Je pense qu'il y en a quelques d'autres qui se reconnaîtront aussi.
Et on les salue.
Tous, évidemment. Mais non, ça c'était important justement pour permettre d'avoir une vision encore plus globale et parfois aussi plus précise sur certains sujets dans la partie de gestion de ce qui se passe à l'Institut, des projets qui sont en cours et aussi toujours sur ce principe d'améliorer notre capacité de travail. Quoi.
Comment toi tu l'as vécu autant à titre personnel qu'à titre professionnel, comme tu disais, pour mettre aussi à ce que tu as appris à disposition dans ton travail?
Alors, je crois qu'on peut dire que je l'ai vécu intensément, mais je pense que ça c'est je pense que si on demandait à toute la cohorte de la 18, comme on s'appelle, je pense que tout le monde l'a vécu intensément. C'était une organisation compliquée à mettre en place, c'était beaucoup de sacrifices comme pour beaucoup. Je remercie d'ailleurs la famille, ma femme, mes filles pour avoir...
On salue Eva qui nous écoute probablement,
ah
et
oui,
aussi
c'est
tes
sûr,
deux filles.
Ouais. Ouais. Qui nous écoute probablement pas, parce que normalement elle devrait être un peu en cours.
Ah bah si elle nous écoute, justement c'est un piège. Si elles réagissent, hop, la main dans le sac, vous n'êtes pas en cours.
Non, elles sont assez malines pour pas tomber dans ce piège. Donc ça a demandé aussi beaucoup d'organisation et beaucoup même au sein de l'Institut, avec les assistants, avec le secrétariat, beaucoup d'adaptation aussi. Donc il a fallu vraiment que... Enfin, je veux dire, ça a impliqué... beaucoup de personnes derrière moi, souvent à leur corps défendant.
Comme tu dis, t'as pu compter sur le soutien de ta famille, famille avec
beaucoup,
laquelle tu voyages, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui te passionne, ça aussi, les voyages.
Oui, toute la famille adore voyager, de toute façon, mais là aussi, c'est parce que ça permet de faire des rencontres, de voir, d'apprendre des autres cultures, d'apprendre des autres, enfin voilà, de s'ouvrir.
Et pendant ces voyages, il y a une autre passion que tu développes, c'est celle de la photo.
Ouais, je fais beaucoup de photos, et là, on revient à la partie vision, regard et ophtalmologie de base. Mais c'est une passion qui, effectivement, j'ai beaucoup de copains ophtalmo qui sont passionnés, effectivement, de photos. Certains même qui sont très férus, qui font leur développement eux-mêmes, qui continuent à faire de l'argentique de façon très... cardinal.
Ah, c'est très très bien ça. Et puis, toi, il y a quelque chose aussi que tu fais de façon très cardinale, c'est la dégustation de whisky, de spiritueux. Et ça d'où te vient cette passion?
Ah, ça c'est une bonne question. C'est une passion qui est venue comme ça, petit à petit. Je pense aussi sur la soif de découverte, j'allais dire.
pas mal. Et alors, je sais que tu ambitionnes de créer un club de dégustation de whisky.
Oui, ça c'est un projet qui était déjà dans les tuyaux avec mon très bon ami Élie, avant le Covid, qui a été, comme beaucoup d'autres projets, mis en stand-by, mais je pense qu'il faut absolument... leur mettre en route ce projet-là. Ouais. Ouais,
toujours à consommer,
toujours
avec
modération
et jamais avant une opération.
Jamais.
combien de personnes tu opères par an?
Je dirais qu'en termes de gestes techniques, intervention, soins au cabinet, injection, on est entre 2000 et 2500 actes par an d'actes, on va dire techniques.
Alors, vu qu'on est sur RCN et c'est presque la fin de cette émission, déjà, ça passe tellement vite, mon cher Hervé.
Quand on est en bonne compagnie.
Ah bah, c'est un plaisir partagé. Mes hommages. Alors, ta soif de défi, elle est inextinguible. Je sais qu'il y a un projet, peut-être un peu top secret, il y a un gros projet, un gros défi sur lequel tu es en train de travailler en ce moment même.
Oui, ça c'est un très très gros défi, mais vous n'en saurez pas plus.
Peut-être.
Ce sera l'objet peut-être d'une autre invitation.
Alors là, les auditeurs vont me demander, on veut savoir, on va recevoir des messages.
L'occasion de se revoir et de, d'en parler.
Eh bien, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Hervé d'avoir, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que voilà, tu es à la tête de l'Institut européen de la vision et du regard. Comment on peut te contacter ?
Oh ben, y a un site internet, l'Institut européen de la vision et du regard. Il y a un numéro de téléphone, on peut trouver si on cherche.
Bon bah alors voilà, allez sur votre moteur de recherche préféré sur internet. Et puis Hervé, on va se quitter avec une chanson. C'est peut-être d'ailleurs ce que tu dis à tes patients quand ils arrivent. Je veux tes yeux. Et c'est signé Angèle. Au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir. Mais t'inventes pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux.